Décryptage, Nathalie Amar.
Nous ne sommes pas opposés à ce qu'à un moment les États-Unis et l'Europe décident de leurs conditions de commerce et de créer une zone de libre-échange. Mais ce qu'il y a dans TAFTA, c'est qu'on va donner aux grandes entreprises multinationales la possibilité d'ester en justice contre l'ensemble des freins à leur commerce. Ça veut dire, et c'est déjà le cas aujourd'hui, une multinationale qui a poursuivi le Canada, qui avait mis un moratoire sur l'exploitation des sous-sols et qui donc estime avoir perdu un chiffre d'affaires lié à ça. Mais c'est aussi demain, les groupes agroalimentaires qui sont pour le bœuf aux hormones et qui vont attaquer les législations européennes sur le sujet, comme la question sur les OGM.
Jamais une négociation commerciale n'avait à ce point suscité le débat. C'est même devenu le sujet polémique dans la campagne pour les européennes, alors que les citoyens des 28 pays de l'UE s'apprêtent à désigner leurs députés, le TAFTA, le futur traité Europe-États-Unis, réveille les passions politiques. Comme Emmanuelle Cosse, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts que vous venez d'entendre, certains pensent qu'il va se traduire par une déréglementation généralisée, que l'Europe va y perdre ses règles sanitaires, ses normes de fabrication, car c'est la particularité de ce traité, de s'attaquer pour faciliter le commerce à harmoniser ses règles. Au contraire, disent les défenseurs du texte, édicter les normes, c'est avoir ensuite tout pouvoir sur les marchés. États-Unis et Union européenne pèsent à eux deux la moitié de la richesse mondiale, 40% des échanges commerciaux, 820 millions de citoyens des deux continents sont concernés. Alors faut-il avoir peur de ce traité transatlantique? On en parle dans Décryptage. Bonsoir Elvire Fabry.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur senior à l'Institut Notre Europe, Institut Jacques Delors. Ces discussions s'étaient ouvertes en juillet 2013, cinquième cycle donc à partir d'aujourd'hui aux États-Unis à Arlington en Virginie. Alors il y a trois reproches principaux que je vais vous soumettre et vous allez y répondre peut-être rapidement. Le principal, c'est l'opacité de la négociation. Les Européens ne savent pas ce qui se trame dans le secret des négociations.
Alors, je crois que tout le monde serait d'accord pour comprendre que dans une négociation commerciale comme celle-ci, que l'Union européenne ne mette pas sur la table toutes ses positions, c'est indispensable dans le rapport de force qui est établi avec les États-Unis. En revanche, c'est vrai qu'il y a tout un débat sur la question de la publication du mandat de négociation. Et que là, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas publié ce mandat, parce qu'il n'y a rien de secret dans le mandat lui-même. Il établit le périmètre de la négociation.
Mais il n'a pas été publié, peut-être parce qu'il était un peu trop technique, c'est ça? Ou parce qu'il y avait des éléments qui risquaient de faire polémique?
Ça relève plus d'une question de procédure, c'est qu'il faut qu'il y ait un vote de tous les États membres, de tous les ministres sur cette question.
Alors le deuxième reproche, on sait que les Américains, ou en tout cas la deuxième crainte, les Américains voient dans beaucoup de directives européennes des obstacles au commerce. On peut citer par exemple, REACH sur les produits chimiques. Et alors évidemment, en Europe, on se demande si ce traité ne va pas, une à une, faire tomber les réglementations, livrer les Européens aux produits américains intégralement.
Alors, il s'agit surtout pas d'entreprendre une sorte de Big Bang de convergence réglementaire, ni de supprimer les réglementations. Il s'agit de voir sur quel point, éventuellement, on peut rapprocher les deux systèmes. On peut supprimer les différences de certification, d'inspection qui ont été, qui émanent de deux systèmes différents, mais qui se reposent sur un même niveau de précaution pour simplifier, faciliter le commerce et réduire les coûts que cela suppose pour les entreprises.
Alors le troisième reproche qu'on entendait dans la bouche d'Emmanuelle Cosse, la soumission aux multinationales, avec le recours à l'arbitrage en cas de conflit entre un État et une entreprise. Qu'est-ce qu'on peut y répondre à ça?
C'est le type de système qui est mis en place essentiellement dans un accord bilatéral lorsque l'on a en face un État qui n'a pas des tribunaux nationaux qui sont dont on estime qu'ils sont pas forcément très sûrs. Et c'est pour garantir à ce moment-là les intérêts des entreprises du pays. Dans le cadre de l'accord du TTIP, vraisemblablement, ce ne serait pas indispensable.
Alors ce traité fait peur en Europe, mais il fait peur aussi aux États-Unis. Anne-Marie Capomaccio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Washington. Alors, chez vous, le sujet ne fait pas du tout la une, mais les syndicats, malgré tout, sont inquiets. La plus importante fédération syndicale des États-Unis, la FICIO, édite un guide pour les négociateurs américains. Qu'est-ce qu'on y lit?
Eh bien, le premier sujet de préoccupation est l'emploi. La question posée par la FL est-ce que cet accord de libre-échange ne va pas provoquer une diminution des embauches aux États-Unis? Alors, la centrale syndicale décrit l'Union européenne comme un ensemble hétéroclite qui n'a pas su harmoniser les droits des travailleurs. Si le niveau de protection des employés est bon en Europe de l'Ouest, ce n'est pas le cas en Roumanie ou en Bulgarie, explique la FLCIO à ses membres. Donc, bas salaire plus niveau minimum de protection sociale, cela pourrait pourrait encourager les entreprises américaines à créer des emplois hors des États-Unis. Alors on voit que cette crainte ressemble aux angoisses qui assaillent les syndicats en Europe. Par exemple en France, la crainte de la délocalisation des entreprises dans un pays de l'Est de l'Union est aussi un sujet récurrent.
L'autre crainte, Anne-Marie, c'est le niveau de couverture sociale et la question des droits sociaux des employés.
Oui, la France est citée en exemple par l'AFL-CIO qui demande donc aux négociateurs américains de travailler à une harmonisation des droits par le haut si une harmonisation est à l'ordre du jour. Alors si on harmonise par le haut, les États-Unis devraient donc se rapprocher des droits sociaux à la française ou des règles d'Europe du Nord par exemple. Mais là, on a franchement du mal à imaginer les entreprises américaines se mettant à appliquer le droit européen sur le sol des États-Unis quand on sait que rien n'est prévu dans le droit américain en matière de congés payés, par exemple.
Est-ce que les sujets qui sortent en Europe et dont on a commencé à parler, comme l'utilisation des OGM, apparaissent dans les craintes des syndicats américains ?
Alors c'est un sujet qui n'est pas du tout évoqué dans cette lettre ouverte. La Fédération syndicale américaine estime que l'on vit mieux et plus longtemps aujourd'hui aux États-Unis et que cette amélioration est due au fait que les entreprises américaines ont été obligées de faire passer la santé des employés avant la rentabilité. Il ne faut pas que sous couvert de libre-échange, nous acceptions des règles qui risquent d'anéantir les progrès accomplis, écrit le syndicat, qui imagine donc un risque de cette nature si cet accord est conclu avec l'Europe. C'est intéressant car les syndicats européens sont de leur côté persuadés que ce risque-là, le risque pour la santé publique, s'il existe, eh bien il vient des États-Unis qui n'a pas les mêmes réglementations sur les OGM par exemple. En lisant cette tribune des syndicats américains, Nathalie, on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucun dialogue entre les centrales syndicales américaines et européennes.
Anne-Marie Capomaccio en direct de Washington. Alors Elvire Fabry, c'est vrai que la difficulté de cette négociation, c'est ça. Chacun est persuadé d'avoir les meilleures normes, les meilleures garanties de sécurité. Et pourtant, si on veut cet accord, chacun va devoir faire des concessions.
Chacun va devoir faire des concessions, mais ce qui est très intéressant là dans ce qui vient d'être cité, c'est qu'on est dans le domaine des perceptions, beaucoup. Et qu'on a, on a côté américain, autant que côté européen, crainte que finalement ça puisse aboutir à un abaissement du niveau des normes. Ce qui va d'abord être étudié par la Commission européenne, c'est les convergences les plus évidentes qui peuvent être faites, les reconnaissances mutuelles qui peuvent être faites dans un certain nombre de domaines. Et puis ensuite, on va rentrer davantage dans le dur du sujet sur un certain nombre de sujets où on sait très bien que là il y a des contentieux forts, type OGM.
Alors quel intérêt l'Europe a-t-elle à définir des normes communes avec les États-Unis ? C'est l'un des débats de cette campagne pour les européennes. Je vous propose d'entendre là-dessus Philippe Juvin, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure en début d'après-midi. Il est eurodéputé et il est sur la liste UMP en Île-de-France pour les européennes.
Il a un seul but, c'est de créer des normes, de négocier des normes communes entre les États-Unis et l'Europe. Pour faire en sorte que ces normes s'imposent ensuite au reste du monde et en particulier à la Chine. Si nous ne mettons pas d'accord avec les Américains sur les normes, les Chinois vont le faire dans notre dos. Donc ce traité, ce n'est pas un traité de libre-échange, ce n'est pas un traité de commerce, parce qu'on commerce avec les États-Unis depuis longtemps, c'est un traité de définition de normes, mais ça personne ne le dit.
Dans quel domaine l'Europe pourrait justement espérer s'introduire sur des segments du marché américain sur lesquels elle n'est pas présente après la signature de ce traité ?
Tous les marchés liés à l'aéronautique. Vous savez que l'aéronautique, c'est la... c'est le premier poste d'exportation française. Souvent, les États-Unis utilisent des alibis techniques de normes pour fermer le marché américain aux entreprises européennes. Ce qu'on veut, c'est forcer le marché.
Voilà, définir des normes pour forcer les marchés, nous dit Philippe Juvin, l'eurodéputé vert José Bové, tête de liste dans le sud-ouest de la France, estime, lui, en revanche, qu'il y a un risque évident pour les Européens.
Vous vous rappelez, il y a 20 ans, juste après la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis avaient attaqué l'Europe sur le bœuf aux hormones. Et donc, ça a été un conflit qui a duré pendant près de 20 ans, qui ne s'est résolu qu'il y a environ un an au niveau européen, par, en réalité, une augmentation du contingent d'exportation de ventes bovines sans hormones des États-Unis. Demain, si cet accord est signé, ce n'est plus les États-Unis qui attaqueront l'Europe, mais c'est une entreprise comme Tyson étant le plus gros producteur mondial de viande de bœuf industrielle, qui utilisent des hormones.
Donc on ne peut pas imaginer, d'après vous, qu'au terme de cette négociation, qui est longue, là on en parle beaucoup parce qu'il y a l'échéance effectivement des élections européennes, mais on est inscrit dans la durée, on ne peut pas imaginer que dans le courant de cette négociation, par exemple, on convainque les éleveurs de poulets américains de ne plus laver leurs volailles au chlore.
C'est-à-dire que c'est pas les éleveurs qui sont en cause. Là, ce sont directement des très grosses entreprises qui commercialisent ce genre de produits. Et donc, clairement, elles vont essayer de pousser jusqu'au bout. Donc, on a un risque très clair sur les normes. On a aussi un risque très clair d'attaque sur, par exemple, les appellations d'origine contrôlées. D'ores et déjà, au Sénat des États-Unis, des dizaines de sénateurs américains ont demandé que ce soit les marques qui soient mises en avant et non plus les appellations d'origine.
Elvire Fabry, est-ce que si on dit harmonisation, comme le dit José Bové, c'est forcément harmonisation par le bas ?
Déjà, si on prend le secteur de la chimie, la dernière contribution qui vient d'être rendue publique par la Commission la semaine dernière, elle exclut le fait qu'on puisse aboutir à une harmonisation parce qu'on a des systèmes trop différents. En revanche, si on parle des produits pharmaceutiques, là, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être étudiés, de labellisation des produits des médicaments génériques, différents éléments qui peuvent être faits. Encore une fois, je pense que le terme d'harmonisation suscite des craintes. Parce qu'on a le sentiment que ça va couvrir tous les domaines. Seront exclus de la négociation les éléments sur lesquels on ne peut pas obtenir un accord ou qui induirait un abaissement trop fort des normes européennes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a à la fois l'accord qui est établi entre les États-Unis et l'Europe pour la facilitation du commerce entre les deux économies et pour dynamiser ces économies. Et puis il y a les intérêts de plus long terme qui sont en effet la promotion de ces normes sur les marchés mondiaux et en effet face à la Chine qui a des fortes ambitions en matière normative.
Alors justement, je voudrais qu'on explique ça. C'est ce que disait Philippe Juvin. À l'instant, il dit voilà, il faut définir les normes parce que sinon d'autres vont le faire à notre place et du coup vont prendre le leadership, le commandement du commerce mondial. C'est ça, c'est une réalité ?
C'est le grand enjeu du commerce au XXIe siècle. À partir du moment où on a aujourd'hui des produits qui ne sont plus que très rarement des produits made in France, made in Espagne, made in Suède, mais c'est plutôt des produits made in the world qui nécessitent l'importation d'un certain nombre de pièces détachées, l'importation d'un certain nombre de matériaux de base et qui finalement nécessitent de plus en plus d'importations elles-mêmes pour arriver à un produit fini. Du coup, les coûts que cela suppose pour les entreprises sont très importants et toute convergence des normes facilite le travail des chaînes de production.
Et les Chinois ont donc réellement l'ambition de eux-mêmes d'édicter les normes internationales ?
Oui, tout à fait.
C'est une ambition
très nette.
Cet accord pourrait apporter près de 120 milliards d'euros à l'économie européenne et 95 milliards à l'économie américaine et près de 100 milliards au reste du monde. Nous devons clairement expliquer que ces chiffres signifient 2 millions d'emplois supplémentaires, plus de choix et des prix plus bas dans nos magasins. Nous parlons de ce qui pourrait devenir le plus important accord commercial bilatéral de l'histoire. C'est le trophée d'une génération et nous sommes décidés à nous en emparer.
Voilà, ça c'était au dernier sommet du G8, les merveilles de ce traité transatlantique décrites par le Premier ministre britannique David Cameron, plus de richesses, plus d'emplois pour tout le monde. Écoutez ce qu'en dit aujourd'hui José Bové, tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le sud-ouest de la France.
C'est un argument qui me paraît tout à fait fallacieux. En termes de croissance, malheureusement, je pense que ça détruira aussi énormément d'emplois et notamment, je prendrai juste le secteur de l'agriculture, puisque dans les propositions qui sont faites dans le cadre de ce marché, on parle d'ores et déjà de 100 à 150 000 tonnes de viande bovine, de volaille, etc. Et donc, on voit bien que ça détruirait à la fois des territoires, tout le secteur, par exemple, d'élevage à l'herbe, en Europe, serait mis à mal parce qu'on ne pourrait pas lutter contre l'élevage industriel.
Alors on va écouter maintenant Philippe Juvin et puis Elvire Fabry, vous nous direz ce que vous en pensez. Pour Philippe Juvin, cet accord va créer de la croissance et de l'emploi.
Il y a un exemple historique, qui date de 2011, c'est que l'Europe a négocié un traité tout à fait similaire avec la Corée du Sud, qui était vécu comme un épouvantail commercial. La Corée du Sud était totalement fermée à l'Europe, justement parce qu'ils appliquaient des normes que nous ne pouvions pas remplir. Et depuis que l'Europe a négocié fort bien ce traité avec la Corée du Sud, la Corée du Sud est devenue une terre d'exportation européenne plus qu'une terre d'importation.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, notamment à la gauche de la gauche, estiment que ce traité va se traduire finalement par un déferlement de produits moins bien contrôlés, moins sûrs du point de vue sanitaire sur le marché européen ?
Je leur réponds deux choses. Premièrement, ne nous refaites pas le coup de la directive Bolkestein et du plombier polonais, s'il vous plaît. Deuxièmement, je leur dis de lire le mandat que nous avons, nous, Parlement européen, confié à la Commission, qui exclut expressément tout le domaine, non seulement de la culture, mais aussi tout le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, l'Europe ne doit pas être la terre de tous nos fantasmes.
Elvire Fabry, je vous voyais sourire et réagir au propos de David Cameron tout à l'heure, à propos effectivement des promesses de croissance d'emploi. Est-ce que, comme le fait Philippe Juvin à partir de l'exemple de la Corée du Sud, on peut extrapoler pour l'Europe un rebond de croissance avec un tel accord et de la création d'emplois ?
De manière générale, je crois qu'il faut se méfier des chiffres et des promesses de création d'emplois et de bénéfices pour l'économie. Ce qui est certain, c'est que la tendance sera à la croissance pour l'économie européenne comme pour l'économie américaine. En revanche, et l'impact sera divers, évidemment, selon les secteurs. En revanche, je crois qu'au stade actuel, on ne peut pas faire de spéculation de données chiffrées non plus, que ce soit sur la viande industrielle ou pas, parce que ça va dépendre du degré d'ambition que l'on se donne dans la négociation. Et donc au stade actuel, il est difficile d'avoir véritablement des données chiffrées. La Commission elle-même a ses propres chiffres en matière enfin ses propres estimations en matière de croissance du PIB de l'Union européenne par an. Je suis même pas sûre que ce soit intéressant véritablement de retenir ces chiffres au sens où il y a les bénéfices de court terme. Une fois que l'accord est négocié, que cela booste le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis, et puis il y a les bénéfices de plus long terme par la promotion, encore une fois, ces normes transatlantiques qui résulteraient sur les marchés mondiaux.
Un mot encore de la question de l'arbitrage, puisque c'est une grosse partie de la polémique ici en France. Le recours à cette procédure de l'arbitrage pour les conflits entre l'État et les entreprises. Certains disent que ça va permettre, par exemple, aux entreprises américaines qui fabriquent des biberons de poursuivre la France parce qu'elle a interdit, dans la fabrication de ces biberons, le bisphénol A.
Alors, dans tous les accords bilatéraux d'investissement, et les États membres de l'Union européenne en ont passé déjà des centaines avec des pays tiers, il y a toujours des clauses qui concernent ces arbitrages. Maintenant, la question, c'est de savoir si, en effet, ça change un petit peu le rapport de force. Et en tout état de cause, ce que l'on peut se dire, c'est qu'il y a une équivalence quand même de qualité et de fonctionnement des tribunaux nationaux aux États-Unis et en Europe, et qu'on n'aurait pas besoin nécessairement de ce système, si ce n'est que le refuser pourrait créer un précédent pour de futurs accords avec des pays émergents qui n'ont pas les mêmes qualités de tribunaux.
Alors il y a aussi la question du calendrier, hein, puisque l'objectif affiché dans la négociation de ce traité, c'est en gros de conclure avant la fin du mandat de Barack Obama, donc en 2016. Est-ce que c'est, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, de la complexité des dossiers, est-ce que c'est, d'après vous, réalisable ?
C'est très peu probable. C'est très peu probable parce que on a déjà fait glisser le calendrier officiel de 1 an, 2 ans. Maintenant, on en est à fin 2016. Comme on vient de l'évoquer, c'est un sujet qui est très technique et qui mérite aussi du temps pour entrer dans chaque secteur. En revanche, c'est évident que c'est une négociation qui peut pas durer trop longtemps, mais on s'installe véritablement sur un agenda de plusieurs années. Et qui pourrait
dépasser et Barack Obama et François Hollande et le mandat de la future Commission européenne, quand même pas, non?
Je pense que l'enjeu ce serait qu'il se termine avant la fin de la prochaine législature européenne, donc dans les 5 ans à venir.
Merci Elvire Fabry d'avoir participé à ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur senior à l'Institut Notre Europe, Institut Jacques Delors, décryptage avec le concours de Leslie Carretero et avec ce soir à la technique Sébastien Salis. Vous nous retrouvez quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr et dans 30 secondes, les dernières infos sur la Radio Mondiale.